Devenir un meilleur clinicien grâce au modèle SERA. Un article de Tim Marcus Valentin Ustad, traduit par Théo Chomeil pour Kinefact. La thérapie physique et manuelle moderne est en train de se modifier et un lent changement de paradigme est actuellement en cours. La recherche sur le modèle biopsychosocial, ou BPS, montre des résultats prometteurs lorsqu'ils sont mis en œuvre dans les thérapies physiques. Et ce modèle est progressivement accepté dans la pratique clinique. En revanche, la prise en charge de pathologies douloureuses dans le champ musculo-squelettique est encore largement améliorable et certaines affections courantes, telles que la lombalgie, est l'un des problèmes de santé les plus coûteux au monde. En outre, la prévalence de la douleur persistante est élevée et continue d'augmenter, tandis que les connaissances et la prise en charge actuelle en matière de soins de santé reste considéré comme médiocre en général. Les physiothérapeutes et les thérapeutes manuels sont très bien placés pour avoir un impact positif sur ce problème, mais un effort conjoint important pourrait être nécessaire pour faire un pas en avant vers de meilleurs soins pour les patients. Le modèle BPS existe depuis longtemps et est mis en avant par de nombreux thérapeutes au quotidien. Néanmoins, le modèle en lui-même semble inaccessible et abstrait pour un nombre important de cliniciens qui ne sont pas encore familiarisés avec son application. Il est également préoccupant de constater l'absence de ces éléments dans nos systèmes éducatifs. Il est nécessaire de rendre le modèle plus accessible et compréhensible afin de clarifier la manière de trouver des informations et de les intégrer à la pratique clinique quotidienne. Il existe également des points de vue variés concernant ce à quoi le BPS devrait ressembler dans la réalité et les applications peuvent différer considérablement d'un clinicien à l'autre. Bien que diverses interprétations puissent être utiles au développement d'un modèle de traitement, les cliniciens pourraient également tirer profit de la définition de ce que nous faisons, créant ainsi un terrain d'entente et un langage commun entre les thérapeutes. Le but de SERA. Le modèle pédagogique SERA constitue un support d'aide à l'intégration des connaissances biopsychosociales. Il contient un mélange d'interprétations de modèles BPS, de cadres de traitement, de philosophie de soins et de connaissances fondées sur les preuves. L'objectif est de combler le déficit de connaissances existants ou de créer une plateforme BPS pour les étudiants, les nouveaux diplômés et les thérapeutes expérimentés. En ayant une conception pratique, l'objectif de SERA est de fournir aux thérapeutes une base de connaissances et des outils utiles afin de mettre en œuvre la pensée du BPS dans la pratique quotidienne. Le modèle SERA pourrait être considéré comme un programme d'enseignement type d'intégration du BPS et pourrait potentiellement servir de modèle pour l'éducation du biopsychosocial dans les écoles. Le modèle SERA est en fait avant tout une suggestion de contenu pédagogique et d'application et ne doit pas être considéré comme un conseil de traitement individuel. Le contexte. L'idée principale du modèle SERA s'inspire du modèle BPS et des thérapeutes influents qui ont proposé de travailler en tant que stratège plutôt qu'en tant que mécanicien. Sigurd Mikkelsen, par exemple, en tant qu'architecte contextuel, comme Corey Blickenstaff, ou en tant qu'interacteur plutôt qu'opérateur, comme Jason Silvernail ou Diane Jacobs. Fondamentalement, cela signifie qu'au lieu de n'être que le fournisseur d'interventions passives et d'utiliser uniquement de la thérapie manuelle, des modalités électriques, ou simplement d'indiquer aux patients des répétitions d'exercices prédéfinis, nous devrions prendre la personne dans sa globalité et prendre en compte tous les paramètres ainsi que les différents aspects susceptibles d'affecter la santé des patients. Le modèle SERA est également influencé par l'excellent travail fourni par la thérapie cognitive fonctionnelle, ou CFT, et par le travail de scientifiques et de cliniciens de la douleur tels que Louise Gifford, Gregory Lehmann, Adrienne Louve, Joe Neges, Lorimer Mosley et David Butler. hormis les discussions sur les réseaux sociaux qui permettent de développer les idées et d'affiner le processus de prise de décision clinique. La lecture et l'écoute de ces personnes ont créé ce que nous croyons être une base solide pour travailler avec le modèle BPS et prendre en charge la douleur persistante. De plus, le modèle SERA est le résultat d'un investissement de temps et d'intérêt pour le sujet d'expérience clinique et un travail quotidien avec les patients souffrant de douleurs persistantes. Les composantes du modèle SERA. L'acronyme SERA signifie screening, éducation, réintégration, autonomie. Le SERA est ouvert à la critique et à l'actualisation, ainsi qu'à l'implémentation de nouvelles données probantes. De nombreuses sources sont citées en référence pour les lecteurs et lectrices souhaitant intégrer et comprendre ces éléments par eux-mêmes, bien que cet article doit être considéré comme une introduction et non comme un document éducatif complet et exhaustif. Le modèle SERA intègre actuellement les éléments suivants. Screening. Écarter les pathologies physiques ou psychologiques qui gêneraient un rétablissement actif et centré sur le patient. Tri-diagnostic, entre parenthèses drapeau jaune ou drapeau rouge, examen physique, dépistage psychosocial et pronostic lors de la première visite, c'est-à-dire l'utilisation d'un questionnaire Orebro ou Startback Tool, dépistage supplémentaire le cas échéant, par exemple à la recherche d'une dépression, de catastrophisme ou de kinésiophobie, reconnaître la sensibilisation périphérique ou centrale au sein du système nerveux et choisir le traitement et la rééducation en conséquence. Les résultats du processus de screening pourraient indiquer que le patient est au mauvais endroit, nécessitant d'autres types de soins, et peut être utilisé tout au long du processus de traitement pour guider une partie ou toutes les décisions ultérieures relatives à l'éducation, à la réintégration et ou à l'autonomie et à une réorientation éventuelle. Éducation. Déséduquer, puis rééduquer. Ce qui signifie qu'une reconceptualisation est souvent nécessaire en démantelant les croyances erronées ou inutiles avant de fournir de nouvelles informations, comme décrit par Louve et collègues. L'objectif est de réduire la menace perçue de la situation douloureuse pour permettre la réduction de la douleur et la réintégration du mouvement. Cet objectif peut être atteint par une explication, discussion verbale, l'expérience de nouveaux mouvements, comportements, ou encore des stratégies de modification des symptômes. Une partie importante du processus d'éducation consiste également à reconnaître et à modifier les attentes du patient afin d'affecter les résultats du soin. Déséduquer, c'est modifier les croyances erronées ou inutiles qui induisent un sentiment de menace et gravitant principalement autour des concepts suivants. Les résultats d'imagerie, rayons X ou IRM, la posture corporelle, les anomalies structurelles telles que des différences de longueur de jambe, des défauts du mouvement comme la dyskinésie scapulaire, la force de gainage ou core strength en anglais, les subluxations et ce qu'il faut réellement s'attendre de la thérapie manuelle par ajustement, trust ou autre, les points musculaires douloureux ou points gâchettes, trigger point en anglais. Rééduquer, c'est atténuer la situation douloureuse en offrant une éducation neuroscientifique à la douleur, une explication thérapeutique de la douleur dans un but de reconceptualisation de son expérience douloureuse, par exemple en utilisant l'analogie « la douleur en tant que système d'alarme ». Des modèles d'explication ou métaphores sur la douleur permettant d'imaginer certains mécanismes, par exemple en montrant un point fermé comme un parallèle avec les muscles protecteurs du bas du dos contractés. Des apprentissages basés sur l'expérience ou l'exposition, la modification des symptômes, la recherche de mouvements spontanés et confiants. De reconceptualiser la notion de blessure, par exemple en attribuant la responsabilité de la douleur à l'irritation des tissus en raison de problèmes de tolérance ou de capacité, plutôt qu'à des dommages au niveau tissulaire, de modifier les attentes en rapport avec le pronostic, par exemple avec le graphique de récupération de Toblerone, gracieusement proposé par Louise Gifford. Globalement, l'objectif de rééducation est de réduire la menace perçue autour de la douleur persistante ou récurrente grâce à une compréhension plus profonde et plus réaliste des processus physiques susceptibles de contribuer à son expérience subjective. Cette démarche peut permettre d'éliminer les obstacles et faciliter les tâches suivantes. Réintégration. La réintégration implique de retrouver des éléments qui ont bien servi l'organisme ou le patient avant l'apparition de la douleur. Dans certaines situations, le patient peut avoir besoin de nouveaux éléments à intégrer qui ne lui seront pas familiers. Recréer la tolérance et la capacité des tissus par l'activité physique quotidienne et ou l'exercice, en laissant les choses se calmer avant de bâtir quelque chose d'encore plus solide, pour paraphraser Greg Lehman. Réenvisager le mouvement sans douleur et sans peur, ainsi que des comportements plus sereins à travers l'exploration du mouvement et la modification des symptômes. Redonner de la confiance en la capacité fonctionnelle. Recréer ou renforcer l'auto-efficacité ainsi que la résilience des patients en créant une indépendance de traitement afin de maximiser l'autonomie lors de la prise en charge. Reprendre part aux activités sociales. Améliorer la santé psychologique, lutter contre la dépression, l'anxiété si nécessaire avec l'aide de psychologues. Amélioration de la gestion du sommeil et du stress et planification quotidienne. Éventuellement d'autres choses. Autonomie. Globalement, le but est de renforcer l'auto-efficacité du patient et de favoriser son autonomie, et ce, de manière durable, en le rendant en fait indépendant du thérapeute. L'objectif devrait être d'accompagner le patient afin qu'il redevienne le maître de la situation. Générer des comportements adaptés au long terme, par exemple lors d'exercices réguliers, en individualisant les activités physiques pour créer des habitudes de mouvement réalistes et réalisables. Mettre en place des mouvements sans douleur ni peur, qui permettent de créer des changements plus permanents grâce à leur intégration à des routines quotidiennes. Générer des comportements psychosociaux fonctionnels au long terme, par exemple en améliorant les compétences d'autorelaxation et en développant les relations personnelles. Mise en place d'un sommeil fonctionnel ou de rythmes diurnes réalisés au long terme. Suggestions de traitement et de rééducation. Encourager le patient à l'exercice, au développement de sa tolérance et à l'augmentation de ses capacités le cas échéant. Cibler la cognition lors de la réalisation d'exercices, en particulier dans le cadre de la douleur persistante, comme le décrivent Neige et collaborateurs ou Bouffe et collaborateurs. Promouvoir l'exercice basé sur le temps passé, par opposition à l'exercice basé sur la douleur ressentie, afin d'atténuer la menace perçue lors du déclenchement de douleur pendant le mouvement. Utiliser de l'exposition graduée au mouvement, titiller la bête ou poking the bear en anglais, comme le dit Greg Lehman. Se servir des nouvelles croyances en la capacité fonctionnelle pour remettre progressivement le patient en mouvement. L'objectif des thérapeutes manuels devrait être d'utiliser les effets positifs de leur intervention manuelle et de minimiser les risques de conséquences iatrogènes grâce à une communication adéquate avec les patients. La thérapie manuelle doit toujours faire partie d'une vision plus large et ne doit pas être un traitement unique et exclusif. Individualiser les interventions en fonction des attentes et des préférences du patient. Celles-ci jouent un rôle important dans les résultats du traitement. De plus, selon les recherches, il est communément admis que les thérapeutes sont peu pertinents pour identifier avec précision ou corriger la plupart des dysfonctionnements dans le corps humain, et ce, même s'ils sont pertinents pour le problème qui amène le patient. Il est également important de noter l'existence d'effets non spécifiques dans tous les traitements, et d'ajouter que la plupart des interventions de thérapie manuelle ont des tailles d'effets faibles à modérés, et ce, indépendamment des explications sous-jacentes et ou des mécanismes proposés. ce qui facilite l'individualisation de l'intervention avec le patient. Ces données signent encore un peu plus le pas de côté par rapport à un raisonnement mécaniste pur. Qui peut bénéficier de ces connaissances? Les fournisseurs de soins en musculosquelettique, ce sont les physiothérapeutes, les ostéopathes, les chiropraticiens, les naprapathes et assimilés, familiarisés avec le triage diagnostique, l'évaluation physique et le traitement. Les thérapeutes qui souhaitent intégrer la pensée moderne du modèle BPS et obtenir de meilleurs résultats lors de la prise en charge de patients souffrant de douleurs persistantes, tout en évitant de diffuser des informations obsolètes ou même de contribuer à des conséquences iatrogènes chez les patients. Les patients aussi peuvent bénéficier de ces connaissances. Le modèle BPS, en général, s'applique aux patients souffrant de douleurs musculosquelettiques, quelle que soit leur évolution temporelle, des affections les plus aiguës aux plus persistantes. Il est difficile d'imaginer un type de plainte de douleur musculosquelettique qui ne pourrait pas en bénéficier ou ne pourrait pas s'intégrer dans la gestion de la thérapie physique biopsychosociale, sauf des conditions physiques ou psychologiques spécifiques qui devraient être exclues par le processus de dépistage. Cela ne signifie pas que cette connaissance est nécessaire pour chaque patient ou chaque situation, mais elle devrait être appliquée à chaque fois que le thérapeute le jugera utile. On pourrait soutenir que la nécessité d'une telle approche est d'autant plus importante chez les patients souffrant de douleurs persistantes, car les facteurs psychosociaux dominent plus largement dans ce genre de conditions, et qu'une grande partie du contenu du modèle SERA provient de travaux actualisés en matière de sciences de la douleur persistante, ainsi que d'expériences cliniques dans ce cadre. D'autre part, la vision globale utilisée dans les traitements BPS devrait également être importante en cas de douleurs récurrentes, d'exacerbation ou de douleurs persistantes, car l'éducation et l'autonomie peuvent être une partie importante de la compréhension et de la prise en charge dans de telles situations. Cependant, même des affections aiguës ou subaiguës pourraient bénéficier d'informations rassurantes et adaptées, d'une modification des symptômes ou d'autres éléments du contenu du modèle SERA. En outre, compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses concernant les conséquences iatrogènes citées plus haut, ces connaissances devraient également inciter les soignants à créer moins de dépendance au traitement ou à ne plus diffuser des informations inutiles ou dépassées. Il y a une base de connaissances suggérée. L'enseignement des neurosciences de la douleur, aussi appelé PNE, Pain Neuroscience Education, ou se basant sur les cours des livres Explain Pain. L'entretien motivationnel, par le biais de livres ou de cours en ligne ou en présentiel. Le concept d'exposition graduée, comme décrit dans les livres de Louise Giffords, Aches and Pains. Être familier avec des stratégies d'exercice pour les patients souffrant de douleurs persistantes, comme la thérapie par l'exercice ciblant la cognition, décrite par Neige et Booth. Être familier avec l'évaluation clinique biopsychosociale. Être familier avec l'utilisation et l'interprétation de formulaires de dépistage, comme Orebro ou Startback. Mise à jour des connaissances sur les croyances erronées induisant une perception de menace pour le corps humain et connaître le pouvoir que nos paroles ont sur les croyances et les comportements des patients. Connaître les raisons pour lesquelles des traitements inefficaces peuvent sembler utiles, tels que l'effet placebo, la régression vers la moyenne, l'évolution naturelle de la maladie, les modifications fortuites liées à d'autres comportements en lien avec la santé, les biais de confirmation et plus encore. La connaissance des effets non spécifiques du traitement et de ce qu'il faut attendre de manière réaliste des techniques et des modalités de traitement. Une expérience en thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ou particulièrement en thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, n'est pas nécessaire, bien qu'elle devrait fournir de nombreux outils de modification du comportement dont de nombreux patients pourraient bénéficier. Les cours de thérapie fonctionnelle cognitive, CFT. Selon ma suggestion et mon expérience personnelle, les étudiants en CFT devraient intégrer certains ou plusieurs éléments du SERA avant de s'attendre à être pleinement capables de réaliser une CFT qualifiée en clinique. Les cours actuels de CFT pourraient servir d'introduction, mais aussi compléter les connaissances à la fin de la courbe de l'apprentissage du modèle biopsychosocial. La CFT pourrait être considérée comme le haut de gamme d'une éducation CERA, un genre de masterclass fortement recommandé. Des connaissances sur la méthodologie de recherche, pour pouvoir identifier des articles de recherche mal conçus. Les limites du modèle CERA. Une limite importante à prendre en compte en ce qui concerne les soins biopsychosociaux est la suivante. Où commence ma responsabilité ou ma compétence en tant que thérapeute physique et manuel, et où finit-elle? Il existe de bonnes raisons pour lesquelles nous avons différentes spécialités professionnelles pour différents problèmes de santé, et il ne s'agit pas de transformer les physiothérapeutes en psychologues. Néanmoins, l'éducation concernant les mécanismes de la douleur et les stratégies de réduction de la peur montre des résultats scientifiques prometteurs sur la réduction de la douleur et surtout l'amélioration de la fonction. Ce qui, je suppose, est le but principal dans notre profession. Si une aide supplémentaire peut être apportée en ce qui concerne les habitudes de sommeil, l'encouragement des activités sociales ou la promotion de la relaxation dans la gestion du stress, je pense que les thérapeutes musculo-squelettiques pourraient jouer un rôle important sans entrer de manière inappropriée dans le pays de la psychologie. On pourrait même appeler cela « voir et aider une personne » et non pas « voir et aider un patient ». Il n'y a pas de recherche en cours sur l'application clinique d'une éducation en modèle CERA, bien que certaines soient prévues pour l'avenir. Il existe toutefois de nombreuses recherches sur plusieurs composants de la CERA, tels que la PNE ou l'entretien motivationnel. Il existe une quantité prometteuse et croissante de recherches pour certains des éléments inclus, tels que la CFT ou la thérapie par l'exercice ciblant la cognition. Quelle pertinence pour le bio dans le biopsychosocial? Compte tenu des discussions en cours sur la pertinence du biologique dans le modèle biopsychosocial, il convient de préciser que le modèle éducatif CERA reconnaît l'existence de problèmes biomécaniques, tout comme le mot bio en psychosocial le suggère. Le modèle CERA estime que les thérapeutes cherchent à trouver les aspects les plus pertinents des problèmes des patients, prennent en compte ce qui est important pour le processus de récupération du patient, et réduisent au minimum les menaces en normalisant la situation problématique. Cela inclut la réintégration de la fonction des tissus biologiques, mais également la biomécanique pour la quête des preuves, et dans certains cas, l'expérience clinique, appuie les conseils ou un changement ou une intervention active. La prévalence de défauts biomécaniques dans la population générale et le manque de preuves à l'appui du processus de correction de ceux-ci devraient toutefois toujours être prises en compte lorsqu'on examine un individu. Conclusion. Les coûts croissants des problèmes musculo-squelettiques, combinés à des preuves prometteuses de l'application du modèle biopsychosocial aux thérapies physiques, impliquent qu'il est extrêmement important que les thérapeutes adoptent et intègrent le modèle biopsychosocial dans leur pratique quotidienne pour en tirer davantage profit au sein de leurs compétences professionnelles. Le modèle pédagogique CERA est une base de connaissances biopsychosociales suggérées et un guide d'intervention dans la pratique clinique conçu pour aider les étudiants ou les thérapeutes physiques et manuels à travailler avec le modèle biopsychosocial dans leur pratique quotidienne. Il s'agit d'une fusion de connaissances fondées sur les preuves, de cadres de traitement existants et de philosophies de soins. Son objectif est d'aider l'actualisation des connaissances des thérapeutes, d'améliorer les prises en charge de la douleur persistante et de réduire la fréquence des conséquences iatrogènes sur les patients. C'était la lecture d'un article sur le modèle éducatif CERA, créé par Tim Marcus Valentin Ustad, naprapate et fondateur du groupe Apply Science to Physical Therapy and Therapy sur Facebook, et de Peter Wicklung, naprapate.